Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Genèse 5, 24. Suite de la semaine dernière. Alors, Dieu le prit. C'est clairement dit ici que c'est Dieu qui a pris Enoch et que c'était quelque chose qui devait être vraiment frappant pour les personnes de l'époque parce que ben, ça a été bien noté, remarqué. Et ça, l'histoire d'Enoch nous a été transmise jusqu'à nous avec ces deux caractéristiques. D'une part, il marchait avec Dieu et d'autre part, Dieu l'a pris avec lui avant son terme. Il n'a pas connu la mort. C'est le seul de toutes ces généalogies pour lequel il n'est pas précisé, puis il mourut. Enoch n'a pas connu la mort. Personnage extraordinaire. Dans la parole de Dieu, on trouve également d'autres cas de personnages qui n'ont pas connu la mort et pour lesquels nous avons davantage de précision. Vous avez sans doute entendu parler de Élie, le Tibite, qui était prophète de l'Éternel dans le royaume d'Israël, qui était la partie après le schisme du royaume d'Israël à deux, après la mort de Salomon, au sud, le royaume de Juda, au nord, le royaume d'Israël. Nous sommes à ce moment-là 150 ans après David. Et Élie est le prophète des tribus du nord. Il est vêtu d'un habit de poil avec une ceinture attachée autour de lui. C'est un homme, on voit bien son portrait, il a eu un ministère qui est assez court finalement. Quand on regarde un petit peu une frise de la chronologie de tout cela, il n'a pas eu un ministère très long, mais il a été très marquant. Il occupe plusieurs chapitres de notre Bible. Vous le connaissez peut-être, c'est lui qui avait défié les prophètes de Baal, qui avait fait descendre le feu du ciel. Et c'est ainsi, quand on pense à Élie, on pense à une personne qui, par sa prière, faisait descendre le feu du ciel. Par sa prière, il faisait pleuvoir ou il faisait la sécheresse sur tout le pays. Et malgré tout cela, Jacques nous dit que c'était un homme de la même nature que lui, que nous, pardon. Un homme de la même nature que nous, mais c'était un homme de prière. Il priait avec foi et il voyait ses prières s'accomplir. Il était également, donc, à ce moment-là, dans une période où l'idolâtrie était très forte, très ancrée. À un moment, il pensait qu'il était le seul à être resté fidèle à Dieu. Dieu l'a repris, lui disait que non, ce n'était pas le cas. Il n'était pas le seul à rester fidèle à l'Éternel. En tout cas, cet homme a été enlevé. La parole de Dieu nous rapporte ce passage. Tout un chapitre est consacré à cet événement. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, je vous conseille d'aller lire ce passage si vous ne le connaissez pas. C'est une histoire très intéressante. Esther avait peint un tableau. Vous l'avez peut-être vu, qui représentait l'enlèvement de Élie dans un chariot de feu, dans un tourbillon. Il est monté au ciel et comment cela s'est passé pour lui. On voit dans les premiers versets de ce chapitre de 2 Rois 2 que, en fait, c'était prévu à l'avance. Les prophètes qui l'entouraient savaient que Élie allait partir, que Dieu allait le prendre. C'était quelque chose qui était bien clairement annoncé. Et à trois reprises, la parole de Dieu mentionne que Élie savait bien que Dieu allait le prendre auprès de lui. Donc, un enlèvement annoncé à l'avance. Quoique ce soit fait de façon aussi spectaculaire, c'était un enlèvement qui devait être discret, puisque Élie cherchait à être tranquille pour ce jour-là, et il essayait d'aller de droite, et il essayait d'aller de gauche, mais son serviteur Élisée voulait absolument, absolument rester avec lui, et où il allait, Élisée, c'était comme on dit, mon pied, ton pied, Élisée le suivait et Élisée ne voulait absolument pas le quitter. Élie finalement elle lui dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, je dois partir, qu'est-ce que tu veux que je fasse, est-ce qu'il y a quelque chose là, tu me suis partout. Et Élisée a demandé le double de son esprit. Élie lui a dit, ce que tu demandes est difficile, mais si tu me vois partir, cette prière, cette demande sera exaucée pour toi. Alors on va lire juste le passage de l'enlèvement de Élie. Tu me demandes une chose difficile, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Donc, verset 11 du chapitre 2, comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. 2 Rois 2, 11. Et donc, la parole de Dieu insiste sur la séparation qu'il y a eu entre Élisée, qui est resté sur la terre, il a trouvé que le manteau de Élie, qui était là, à ses pieds, et Élie. Et donc on peut dire que c'était également quelque chose d'assez spectaculaire, mais qui est resté assez discret, puisqu'il n'y avait eu qu'un seul témoin de cela. Où est-ce que l'on parle encore d'enlèvement dans notre Bible? On a parlé tout à l'heure de l'ascension de Jésus, qui est un petit peu différent, parce que Jésus n'a pas été pris par Dieu, dans le sens qu'il est, il a dit « je vais m'en aller ». Et Dieu, Jésus est parti vers son Père pour ensuite revenir. C'était après sa résurrection, donc c'est un contexte un petit peu différent, il est qu'on l'a lu lentement monter vers le ciel. Tous les disciples étaient là et le voyaient monter jusqu'à ce qu'il disparaisse de leurs yeux. Et là, il y avait une grande foule. Et en même temps, il y a eu l'annonce de son retour, vous l'avez entendu et lu tout à l'heure, de la même manière qu'il était monté. Donc c'est un petit peu différent, le cas de l'ascension de Jésus dans le Nouveau Testament. Il y a également des enlèvements qui ont lieu. Vous connaissez peut-être l'histoire de Philippe. Alors c'est toujours le même mot qui est utilisé, le mot grec qui était utilisé dans la traduction de la Septante pour Genèse chapitre 5, qui est le mot harpazo, se retrouve ce même mot enlevé, pris, enlevé pour décrire l'expérience qu'a eu Philippe quand il était sur le chemin. Le chemin de Gaza, voilà, qui était sur le chemin de Gaza, il a rencontré l'Éthiopien, l'Élite éthiopien qui était là, qui lisait le livre d'Ésaïe, qui ne savait pas du tout ce qu'il comprenait, et donc Philippe est venu, il lui a expliqué le salut, il lui a annoncé le Seigneur Jésus-Christ, et l'Élite s'est converti là, au bord de la route. Il a été baptisé au bord de la route. Et puis, tout à coup, l'eunuque n'a plus vu Philippe. Philippe était parti. Il avait été enlevé pour aller un petit peu plus loin, juste pas très très loin, quelques dizaines de kilomètres plus loin, dans une autre ville. Et là, l'idée, c'est plutôt pour cet eunuque qu'il sache, qu'il comprenne que voilà, maintenant, il devait avancer et continuer sa vie chrétienne sans Philippe à côté pour lui expliquer les choses. Il devait être autonome, il avait le Seigneur Jésus-Christ avec lui, il avait l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour le conduire, et cela était quelque chose qui allait lui suffire. Donc c'est une expérience également différente, où Philippe a été transporté d'un lieu à un autre, comme ça. Il raconte cette expérience, un petit peu différent. Une autre expérience d'enlèvement également que l'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui a lui été enlevé jusqu'au troisième ciel, raconte-t-il dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, les Corinthiens doutaient du ministère de l'apôtre, ils le considéraient suite à de faux enseignements qui étaient des faux docteurs qui étaient venus à Corinthe, les troublaient. Ils considéraient un petit peu l'apôtre Paul comme un apôtre de seconde classe, etc. Il y avait des critiques qui étaient faites à son égard. Et donc, l'apôtre se sent obligé d'écrire aux Corinthiens pour leur raconter cette vision de Dieu. Plutôt, c'était des paroles qu'il a entendues. Il a été transporté dans le troisième ciel et il dit... Là, il a entendu des paroles qui n'est pas permis aux hommes de prononcer. Des paroles qui n'est pas permis aux hommes de prononcer. Et ce témoignage nous permet de nous conforter dans la conviction que l'apôtre Paul tenait son évangile de Jésus-Christ lui-même, comme il l'affirmait. À plusieurs reprises, notamment dans l'épître aux Galates, il tenait l'évangile de Jésus-Christ lui-même et les écrits de Paul proviennent de la révélation de Jésus-Christ à Paul. Là aussi, c'est une expérience un petit peu différente de celle de Hénoc et de celle de Élie, parce qu'il était transporté au troisième ciel. Pourquoi le troisième ciel? Je ne sais pas trop. Peut-être le premier, c'est celui que nous voyons là, les étoiles, les avions. Le deuxième ciel, ce n'est pas précisé. Il y en a qui pensent que voilà, c'est là où se trouvent tous les forces spirituelles, les esprits spirituels, tout ce que l'on ne voit pas et qui nous entoure, qui peut-être qu'on peut appeler ça le deuxième ciel, qui font cette hypothèse-là. Et le troisième ciel, donc, la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Et on retrouve donc ce terme, l'apôtre Paul s'en va, mais il revient lui-même. Il dit, je ne sais pas si je suis parti avec mon corps ou sans mon corps, je ne sais pas. Mais là, j'ai entendu des paroles qui n'est pas permis aux hommes de prononcer. Un cas un petit peu différent. Il y a par contre question d'un enlèvement, ça c'est un enseignement de Paul, donc qui concerne le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de son Église. Alors on va s'attarder un peu là-dessus et lire ensemble un passage de l'épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Thessaloniciens 4. Et plus les épîtres sont courtes, plus elles sont vers la fin. Thessaloniciens 4. Il parle de différentes choses. Et au verset 13, nous lisons ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas, que vous ne soyez pas tristes comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Si nous croyons que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, l'avènement, le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Encouragez-vous. Exhortez-vous. Au verset 18. Alors ce passage, vous l'avez vu, il est dans un contexte de la résurrection. C'est un enseignement qui est donné dans le contexte de la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15, il parle également de ce même sujet dans le cadre de la résurrection. Et le grand objectif de tout cela, nous l'avons lu au verset 17. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, les gens qui ressuscitent, donc il y a tous qui ressuscitent, et puis les vivants, et tout le monde est enlevé, c'est le même mot que pour Enoch, enlevé avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, en quelque sorte, le Seigneur revient et l'Église part à sa rencontre. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. L'idée de tout ça et l'objectif, c'est d'être avec Jésus-Christ, d'être pour toujours avec Jésus-Christ, selon le plan de Dieu. On voit également qu'il y a ici un sujet de consolation. Les Thessaloniciens, si vous lisez l'Épître, vous apercevrez que c'était des gens qui étaient persécutés par leurs contemporains, là où ils habitaient. Il n'y avait pas beaucoup de Juifs, mais si vous lisez le livre des Actes, si vous lisez les Épîtres de Paul, il y a eu beaucoup d'opposition envers ces premiers chrétiens de la part de leurs compatriotes. Ils étaient persécutés. Il y avait des personnes qui étaient mortes et il s'agit, Paul rappelle ceci, donc dans un contexte de persécution. On peut se demander, mais quand est-ce que cet enlèvement, on a dit ici, à la voix d'un archange au son d'une trompette de Dieu, mais ce sera quand? Nous avons lu quelques passages tout à l'heure. Et les paroles de Jésus-Christ lui-même qui a dit, ce n'est pas à vous de savoir quand est-ce que le Fils de Dieu reviendra dans sa gloire. Et la recommandation qu'il a fait, vous ne savez pas ni le jour ni l'heure, veillez et priez. Et il ajoute, je le dis à tous, veillez et priez pour pas que vous soyez surpris par cet événement-là. Et par tout ce qui va l'accompagner. Donc, on ne peut pas savoir si c'est ni le jour, on ne peut pas savoir ni le jour, ni l'heure. Donc, en tout cas, ce matin, on est averti. Troisième, donc, le dernier enlèvement, qui est un peu différent, donc vous voyez, de l'enlèvement de Enoch. Enoch était un individu qui était parti vers le Seigneur. Et là, il s'agit de tous les croyants qui vont partir ensemble. C'est encore une expérience qui va être certainement différente. Hein. Alors, est-ce que, cette question que vous vous posez, est-ce que ça peut se produire encore d'être enlevé comme ça, marcher avec Dieu et puis d'être enlevé pour partir avec Dieu? Je ne saurais pas vous répondre. J'ai pas beaucoup lu, mais on trouve parfois des témoignages ou des récits de personnes qui ont effectivement été enlevées comme ça par Dieu. C'est le cas d'un missionnaire en Chine du début du siècle, James O. Fraser, qui avait beaucoup travaillé parmi les tribus des Lisu. C'est un livre, sa fille a rapporté sa biographie en français. Le titre du livre, c'est « Le fleuve de lumière ». Vous l'avez peut-être lu. En anglais, c'est « Mountains », quelque chose. Si ça vous intéresse, je peux le retrouver. Et donc, ce livre a pour objectif de décrire la vie de foi du missionnaire et la façon dont il s'est complètement effacé. Tout le monde l'avait oublié, ce missionnaire. Il était seul dans les montagnes pour amener à Jésus les tribus lisues et il a passé des dizaines d'années. Finalement, il y a eu un grand réveil parmi ces tribus qui se sont massivement tournées vers Dieu avec une foi ardente. Et ils avaient l'habitude d'aller sur les montagnes prier de temps en temps. Ils faisaient des retraites de prière, chacun priait dans son coin. Et puis il y en a un là qui n'est jamais revenu de la montagne. Et ils décrivent ça. Ceux qui l'ont entendu, on décrit, ben, c'était l'endroit où ils priaient. Et puis quand on ne le voyait pas, quand on est arrivé, ben, on a cherché. Et puis on a vu un trou dans l'endroit où il se trouvait. Il y avait un trou dans le toit. Et puis lui, il n'était plus là. Alors, bon... rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce que nous allons retenir pour ce matin ? Est-ce que la marche avec Dieu est dangereuse ? Je ne crois pas. C'est une question de désir, je pense. Le désir d'être avec Dieu. Qui devait... Et puis c'est d'être agréable à Dieu et ce désir, et Dieu qui répond à cette prière. Est-ce que moi je suis prêt à être enlevé par Dieu ? C'est dans le cas de Enoch ou d'un Élie ou de toute autre personne, je ne sais pas. Et en tout cas, la parole de Dieu nous dit d'être prêt à l'enlèvement de l'Église. Être prêt à l'enlèvement de l'Église, qui est un événement à venir, un événement qui est annoncé à l'avance. Est-ce que ce sera un événement qui se fera dans la discrétion ou pas ? Je ne sais pas, mais il y aura une séparation, c'est sûr, des croyants en Jésus-Christ avec ceux qui vont rester sur la terre. Est-ce que Dieu sera obligé d'envoyer un peu de persécution là pour nous pousser un petit peu à nous réveiller et à désirer partir, ou que nous vivions dans des conditions morales tellement loin de la pensée de Dieu que nous voulions absolument partir de là. On a le témoignage que Lot, il tourmentait son âme nuit et jour quand il était à Sodome et Gomorre, entouré de ces gens pervers. Sa présence là, ça le tourmentait continuellement. Bon, lui, il a été un petit peu tiré pour partir. Hein. Un ange est venu le tirer de par là. Sors de là, sinon tu vas périr avec les gens de Sodome et de Gomorre. Qu'est-ce que le Seigneur va faire pour nous donner envie de partir ? Je pense qu'il va quand même préparer cela. En tout cas, si nous ne savons pas le jour où cela se produira, nous savons qu'un jour cela va se produire. Alors, l'heure a tourné, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. On va prier, relisez ces passages, réfléchissez dessus. Il faut les voir tranquillement, les lire et s'en approprier de l'enseignement de la parole de Dieu petit à petit. Hein. Mais ne soyons pas des auditeurs oubliés. Alors, je proposerai de chanter deux chants pour terminer. On peut rechanter, je veux chanter un chant d'amour. Et je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus.